Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans ce mug numéro 70, c'est l'édition spéciale sur la chaîne principale et on démarre tout de suite. Bonjour à tous et très très bonne année 20 sur 20. Hein. Nous sommes déjà le 3 janvier 2020. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes, que ça soit Noël ou que ça soit le jour de l'an. On se retrouve pour l'édition spéciale du Mug sur la chaîne principale. Je rappelle la formule du Mug, c'est une revue de presse tous les matins de la semaine de 8h à 9h. Du lundi au jeudi, ça se passe sur une chaîne secondaire, pour pas que vous ayez une inondation sur cette chaîne-là de contenu live. Donc tous les matins de la semaine, du lundi au jeudi, sur Nowtech Live. Abonnez-vous si vous voulez suivre le reste de la semaine. Et le vendredi, on se retrouve tous sur la chaîne principale afin de partager ce petit moment ensemble. J'espère que tout le monde... Oula, il y a du monde ce matin. Bah, c'est cool, c'est cool. Ça veut dire qu'il y en a qui sont encore en vacances et d'autres qui ont repris le travail. Bon courage également à ceux qui subissent les grèves. Bon courage également à ceux qui font la grève. Hein. On a un message universel. On aime tout le monde dans cette émission et on soutient tout le monde. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Ah ouais, il y a du monde ce matin. C'est cool, c'est cool. Allez, on va démarrer tout de suite. Je vais pas faire un récap des news de la semaine parce que la semaine, c'était un peu la trêve des confiseurs. Il n'y a pas eu tant de news tech que ça, mais il y a pas mal de news ce matin, ce vendredi dans le monde de la tech. Donc, on attaque tout de suite le Kawa. Et nous avons eu droit à la première intervention de Siri de l'année, hein, qui a décidé de se manifester cette année, hein, toujours aussi stupide, mais toujours aussi active. et on dit merci Siri, tout à fait. On va commencer les news ce matin. Alors bien sûr, c'est le bazar dans mes news. Je voulais commencer par quoi ? Mince, j'ai perdu mon premier article. Eh ben, écoutez, on va faire un petit peu dans le désordre. On va parler d'une arnaque qui a lieu en ce moment autour de Disney+, auquel il faut vous méfier. Vous avez peut-être vu passer des messages selon quoi Disney+, donc la nouvelle offre de SVOD de Disney, cherchait des bêta-testeurs en France. Alors, vous vous êtes dit, miam miam, je vais pouvoir me faire le Mandalorian tranquille. Eh bien, en fait, non, c'est complètement faux. Disney+ ne cherche pas de bêta-testeurs en France. En fait, c'était une inscription où vous pouviez vous inscrire en tant que bêta-testeur. Vous arriviez sur un site qui reprenait les logos de Disney+, qui était rédigé en mauvais français. Alors déjà, premier indice, il y avait plein de fautes d'orthographe, etc. Donc là, il faut se méfier un petit peu. Et puis surtout, le site vous disait, comme la loi française ne permet pas d'offrir des sites, des offres, des services gratuits, il faut que vous payiez 2 euros. Il n'y a pas de loi française qui interdit d'offrir des services gratuits. Enfin bon, c'est encadré, mais il n'y a pas de ça. Donc le 2 euros était déjà chelou, mais ça ne s'arrêtait pas là, puisqu'on vous demandait 1 euro de plus pour participer à un tirage au sort. Donc un tirage au sort pour être bêta-testeur Disney+, déjà là, un petit peu bizarre. Et ensuite, on vous disait, bah, vous avez droit à un essai de 3 jours, et après, vous allez être prélevé de 75 euros chaque mois, alors que Disney+ ne coûte que 6,99$ mensuellement actuellement aux États-Unis, avec un prix qui sera relativement équivalent en euros quand ça arrivera en Europe. Donc, bien sûr, c'est de la foutaise. Méfiez-vous. Effectivement, comme il y a une mode autour de The Mandalorian avec Baby Yoda, etc., beaucoup de gens veulent voir cette série. On va le dire sans le dire. Elle est relativement facile à trouver, mais quand même, il y a des gens qui préféreraient la regarder comme ça en streaming normalement. Donc, certains se sont engouffrés effectivement dans cette brèche. Et donc, méfiez-vous. Méfiez-vous, Disney Plus n'a pas réagi à l'annonce, mais Disney Plus n'a pas besoin de bêta-testeurs en France. Hein. C'était trop beau. La plupart des gens qui se font prendre ont la même orthographe que les escrocs. Oui, et puis même, il y a des gens qui lisent... Ça, je m'en aperçois tous les jours. Il y a des gens qui ne lisent rien. Les gens ne lisent plus rien. Tu réponds à une question, ils te reposent la question. Hein. Aujourd'hui, les gens, c'est je clique, je clique. Hein. Je lis plus, je clique. Donc, attention à l'arnaque. On va parler un petit peu de Google et des progrès de la médecine grâce à l'intelligence artificielle. Effectivement, il n'y a pas que du mauvais avec l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on vit actuellement dans un monde où chaque nouvelle, on se dit « Oh mon Dieu, on est de plus en plus espionnés, ces intelligences artificielles qui se mettent à mieux nous comprendre que nous-mêmes. » Enfin bref, ça fait flipper, mais parfois c'est utilisé pour faire des choses extrêmement positives et notamment l'amélioration du dépistage du cancer du sein, maladie qui touche majoritairement les femmes, effectivement, près de 60 000 nouveaux cas en France en 2018. Et effectivement, avec sa technologie, Google aimerait aider les radiologues à mieux identifier les potentielles cellules cancéreuses. Il faut savoir que l'interprétation des mammographies est quelque chose d'assez difficile pour les radiologues qui craignent les faux positifs et les faux négatifs. Le faux positif, c'est un dépistage positif, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cancer du sein. Et les faux négatifs, c'est un dépistage négatif alors qu'il y a un cancer du sein. Et grâce, effectivement, avec un entraînement de l'intelligence artificielle à la lecture des radios, Google arrive au chiffre suivant, une réduction de 5,7% des faux positifs. Alors, le test a eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et une réduction de 9,4% des faux négatifs, toujours sur cet échantillon. Donc ça, ça peut être effectivement un vrai progrès de l'intelligence artificielle, du deep learning, d'apprendre effectivement à ces intelligences artificielles à lire mieux les radios. Les radios, c'est quand même un exercice compliqué hein, en termes de diagnostic. Et manifestement, je ne le savais pas personnellement, mais compliqué dans le cas du cancer du sein. On sait que dans le cas du cancer du sein, comme énormément de cancers, plus la détection est avancée, plus grandes sont les chances de guérison ou de rémission. Plus on découvre tard un cancer, plus c'est trop tard, effectivement. Donc, effectivement, ça, c'est dans les choses... Parfois, on oublie un petit peu les choses positives de la tech, hein, surtout à notre époque. Donc, c'est important de le rappeler. Parlons un petit peu maintenant de Jimmy Iovine. Alors, Jimmy Iovine, ça vous dit peut-être quelque chose. Jimmy Iovine, c'est celui qui est actuellement, avec Dr. Dre, derrière les casques Beats, l'entreprise Beats. Ça a été un grand ingénieur du son, un grand producteur, quelqu'un de très important dans le monde de la musique. Et lors d'une interview, il parle du streaming musical et il estime que le streaming musical est dans une impasse. Et il parle aussi des rapports qu'il avait avec Steve Jobs pour expliquer un petit peu ça. Alors, son analyse est assez pertinente, même si elle n'est pas vraiment tournée vers le consommateur. Il explique qu'actuellement, les limites du streaming, c'est que ça oppose les ingénieurs qui ne voient que le côté technique du service de streaming les artistes et les producteurs qui, eux, s'occupent que du contenu et non du support. Et qu'il y a un problème de communication entre les deux. En fait, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est que, quelque part, les services de streaming de musique... les services de streaming tendent vers ce que les consommateurs souhaitent, et nous consommateurs, dans notre fort intérieur, ce qu'on aimerait, ce qu'on rêverait d'avoir, c'est une licence globale. C'est je paye et j'ai toute la musique du monde. Le problème de ça, c'est que quelque part, ça serait anti-compétitif. Parce que si on avait un service qui permettait d'avoir toute la musique du monde qui existe par un abonnement, il n'y aurait pas une nécessité d'avoir plusieurs services. Donc il n'y aurait pas de concurrence. Qui dit pas de concurrence dit pas de guerre sur les prix, pas d'innovation. On aurait quelque chose qui stagne. On a tendance souvent à oublier les effets positifs de la concurrence, qui est un des vrais moteurs et de la technologie et de la recherche et du commerce. Et là où il n'a pas tort, c'est qu'à l'époque, finalement, où la musique, le marché de la musique était architecturé complètement différemment, avec des majors qui alignaient des exclusivités avec des artistes et en achetaient des albums à tel ou tel major, il y avait une vraie stimulation dans le monde de la musique, tant au point de vue artistique qu'au niveau ingénieur du son, enfin augmenter les qualités de production. Et lui, ce qui l'inquiète, et c'est pas bête de dire ça, c'est que comme les services, finalement, quelque part, se ressemblent beaucoup et qu'ils tendent tous vers une licence plus ou moins universelle, il y a de moins en moins de combats, finalement, sur des exclusivités. Alors, je comprends que nous, on n'a pas envie qu'il y ait tel ou tel artiste soit lié à telle ou telle plateforme parce qu'on n'a pas envie de multiplier les abonnements aux différents services de streaming. Mais il faut ouvrir un petit peu ses chakras et effectivement réfléchir que à trop vouloir une licence universelle, on risque de tuer une certaine concurrence qu'il y aurait entre les services de streaming. Donc, l'innovation se fera sur les services et l'ergonomie au lieu du catalogue. Oui, mais in fine, Tic-Tac-Oumi, quand on écoute de la musique, c'est... ah merde, j'ai oublié de verser mon thé. Je termine cet article et je vais aller me verser de l'eau chaude. Voilà, on a envie aussi... Enfin, c'est la musique qui compte, bien sûr. L'ergonomie, la technologie, d'avoir des bitrates plus grands, ça peut être important. Mais on a envie aussi d'avoir certaines exclus et ce genre de choses. Donc, et d'un marché assez dynamique. Le problème, c'est que si on tend trop vers la licence globale, et en ça, je comprends ce qu'il veut dire. Si on tend trop vers la licence globale, on va arriver à un service unique qui va finalement ratiboiser tous les autres, qui vont les faire disparaître. Et une fois qu'on a un service unique de licence globale à la musique, il n'y aura plus vraiment de raison pour ce service global d'innover. Ça ne sera que des coûts supplémentaires pour lui. Donc, ça se tient. Ça se tient. Là où c'est leur intérêt économique, pas le nôtre. Oui et non. Oui et non. Parce que sans innovation, ça veut dire pas de guerre de prix aussi. Vincent. Et un service universel unique aurait toute liberté de fixer un prix et de l'augmenter comme il veut. Il n'y aurait pas de concurrence pour le contredire. Donc, c'est pas forcément notre intérêt non plus. Si on n'a pas de licence globale, on va télécharger les musiques qui ne sont pas dans l'abonnement, comme pour les séries et les films. Ça se discute, les chiffres quand même du téléchargement. Moi, je sais que, ok, avec mon abonnement streaming musical, j'ai pas accès à toutes les musiques du monde, mais franchement, c'est largement suffisant. Et le besoin que j'ai d'aller télécharger des titres spécifiques, il a été réduit à zéro. Alors, je suis pas le plus grand mélomane, je suis pas à l'affût d'exclusivité ou de live bien particulier, mais globalement, ça fait une éternité que je n'ai pas téléchargé le moindre titre de musique depuis qu'il y a des services de streaming. Moi, je suis sur YouTube Music. Enfin, je suis YouTube Premium, donc j'ai ma musique à travers YouTube Music. Et ça me suffit largement. Hein. Personnellement, je ressens pas le besoin d'aller ailleurs. On va en reparler de toute façon dans le mug ce matin. C'est un petit peu différent pour les vidéos où là, justement, il y a beaucoup plus de compétition en ce moment avec des exclusivités. Donc, la tentation du piratage d'aller copier The Mandalorian, d'aller télécharger The Mandalorian ou d'aller télécharger des séries HBO parce qu'on n'a que Netflix est beaucoup plus grande. Et le problème est pas simple. Oui, on en reparlera, François-Michel, de Mandalorian. J'ai justement tout le mug va apporter sur le gros coup qu'a fait TV+, ce matin avec HBO, enfin avec l'ancien patron de HBO, et on en profitera pour parler de vos intentions concernant le streaming vidéo. Mais ça sera dans la tartine. Je continue dans les articles. Parlons un petit peu d'Apple. J'ai deux news autour d'Apple et deux news autour de l'audio chez Apple. Mais avant ça, je vais aller me verser un petit peu d'eau chaude. Vous m'autorisez à le faire? Attention, siège vide. Yep. Et voilà de retour. Merci de votre autorisation généreuse. Je ne l'ai pas attendu pour aller me servir de l'eau. C'est vrai que le problème des exclus est différent entre la musique et la vidéo. Oui, ce n'est pas effectivement exactement les mêmes usages. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à regarder le live de mon lit. Non, vous êtes un certain nombre, je vous vois tous de toute façon. J'ai un petit écran avec des... J'ai pris le contrôle de vos caméras vidéo. Il y en a, c'est pas très reluisant hein, le matin. Et puis, il y en a certains, je préférerais pas voir hein, ce qu'ils sont en train de faire. Mais je vous vois tous, en fait. Vous le saviez pas, mais je vous vois tous. Elle va être bonne cette année, ouais, c'est clair. Vous imaginez, si je vous voyais, je crois que si je vous voyais le matin pendant que je fais mon live... Ça serait mais absolument terrifiant. Mais terrifiant. Je préfère pas le savoir. Ah non, ça serait... j'ai rien contre vous, mais ça serait quand même un peu le musée des horreurs. Hein. À la manière de Snowden. Tout à fait, j'ai un énorme mur en face de moi avec plein de petites vignettes et je vous vois tous. Arrête de te curer le nez, toi. Ah, ça a l'air bon, là, ta tartine. C'est quoi comme confiture? Oui, j'ai que YouTube Music, moi. Ça me suffit largement. Bref, allez, je continue. J'ai deux news, effectivement, sur Apple ce matin. On va parler de brevets. Apple aurait déposé un brevet sur des haut-parleurs virtuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec un simple MacBook Pro, Apple... En créant un mini délai sur l'arrivée de certains sons, arriverait à simuler une spatialisation du son. C'est pas une technologie nouvelle, hein. Ça existe déjà sur certaines télés qui arrivent à simuler justement comme ça avec des petits délais en envoyant le son un tout petit peu plus en retard. On a l'impression que le son émerge à côté de soi et non pas de la télé. Donc c'est de la spatialisation virtuelle du son. Eh bien, Apple aurait déposé un brevet pour pouvoir le faire avec un MacBook Pro. Et ça, ça nous fait dire plusieurs choses. Parce que, bon, le MacBook Pro, dans ses usages, on va dire, de production de contenu, moi, pour faire du montage, j'ai pas vraiment besoin d'une spatialisation du son. Et c'est vrai que du contenu, je le consomme pas sur un MacBook Pro. Il y a des gens hein, qui regardent des films sur MacBook Pro, etc. Je suis sûr que certains d'entre vous le font. Mais je pense pas que ça soit une frange majoritaire d'acheteurs de MacBook. Donc on pourrait se dire, si on fait un petit peu la corrélation avec une autre rumeur qu'on a eue en début de semaine, selon quoi Apple travaillerait sur des ordinateurs portables pour le gaming, on pourrait se dire... Ça pourrait être pas mal sur un ordinateur de gaming d'avoir une spatialisation virtuelle du son. Ce qui nous ramène à cette rumeur. Est-ce qu'Apple est en train de préparer des ordinateurs haut de gamme dédiés au gaming? Avec les mêmes interrogations qu'on avait en début de semaine. Est-ce que ça va être un ordinateur de gaming pour les jeux actuels d'Apple Arcade qui sont quand même pas... qui, même s'il y a des bons jeux dans le tas, sont quand même pas des triple A ou des gros jeux de hardcore. Est-ce que, d'ailleurs, c'est peut-être pas leur cible, hein, le hardcore gamer. C'est peut-être le casual gamer de luxe, hein, leur cible. Est-ce que Apple va oser sortir un MacBook Pro avec un boot sur Bootcamp en disant on a sorti le meilleur PC pour gamer et c'est un Mac? Ça sonne pas mal en pub, hein, ça. De dire, on a sorti le meilleur PC de gamer portable qui existe, et c'est un Mac. Ça serait un bon coup de pub, ça. Enfin, à mon avis. Après, j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Apple cherche aujourd'hui des nouveaux marchés. Le marché du PC gaming... Alors après, moi, j'ai encore une hypothèse un peu plus folle, mais je ne pense pas que ça arriverait cette année. Moi, je pense qu'Apple soit est en train de développer de son côté, soit est en train de se préparer à racheter une boîte qui va faire du streaming de jeux vidéo PC. Ou du streaming de jeux façon Stadia. Je pense qu'Apple voit bien les avantages, et moi je le vois en tant qu'utilisateur, de pouvoir lancer Shadow PC sur mon Mac et jouer à n'importe quel jeu PC, c'est une plus-value pour mon Mac énorme. Aujourd'hui, plus besoin d'acheter un PC de gamer plus un Mac pour travailler. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'Apple soit en train de travailler sur un truc comme ça pour le gaming, soit en train de se préparer à racheter une boîte. Moi, j'avais pronostiqué il y a 3-4 ans qu'ils rachèteraient Shadow PC. Je ne pense pas que ça arriverait, mais ça serait un joli coup quand même. Pour le streaming, il n'y a pas besoin d'une config puissante. Oui, mais tu peux aussi le faire d'une config puissante dédiée macOS et du coup surmonter le problème des Mac qui est qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont adaptés à macOS. Et de pouvoir lancer une session finalement PC gamer, t'as même plus besoin de voir Windows 10, même avec le Shadow PC et la bêta du Shadow PC, tu peux aujourd'hui lancer, t'as les pochettes de tes jeux, t'appuies et tu joues à tes jeux directement, tu vois même plus ou quasiment plus Windows 10. Donc, peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. Salut Vertige, bonne année. Le problème avec les jeux sous Mac, le catalogue est limité. Oui, après, c'est ce que je disais sur cette hypothèse. N'oublions pas qu'Apple a les poches très pleines, qu'on pourrait beaucoup rigoler s'il se lançait dans le jeu vidéo au début, qu'on rigolerait peut-être moins dans 1 ou 2 ans. Et on va voir d'ailleurs ce qu'ils vont réussir à faire avec leur offre TV+. On a bien rigolé quand on a dit « Oh là, Apple veut faire du Netflix, ils ont 2 séries qui se courent après. » Et moi, le premier, hein, j'ai dit « C'est quoi ces séries de tocards ? On va avoir 3 séries qui se courent après. » Et force est de constater que leurs séries sont pas mauvaises du tout. Et vous allez voir, j'ai une news pour la tartine qui fait dire que Apple se met sérieusement à faire de la SVOD. Donc, ils pourraient aussi se mettre sérieusement à faire du jeu vidéo. Hein. Donc, à voir. Il n'y a qu'à voir quand ils ont dégoté des exclus Apple Music. Il ne faut jamais oublier qu'Apple est aujourd'hui la compagnie, l'entreprise qui a le plus gros trésor de guerre au monde et qu'ils pourraient racheter Netflix. Hein. Ça épuiserait leur trésor, mais ils pourraient racheter beaucoup de monde, Apple. Donc, s'ils décident de se mettre à quelque chose, ils peuvent faire très très mal. Et le gaming est quand même aujourd'hui un domaine qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, à voir. Notamment tout ce qui est casual gaming. Ça, il faut le savoir, même si on s'enthousiasme beaucoup pour les jeux de hardcore gamer et les news de hardcore gaming et ceux qui se disent culture gaming, le gros du marché, c'est le casual. Après, merci beaucoup pour ton super chat, quoi ça est. Après, si Apple développe plus de hardware, vu qu'ils ont déjà le soft, qui est assez bon, surtout quand on compare avec Vulkan. C'est pas faux. Effectivement, avec Metal API, Vulkan, etc., ils ont les bonnes bases pour attirer les développeurs. Le fait est, c'est qu'ils ont jamais mis des bonnes cartes graphiques pour gamers dans leur Mac. Ça a un peu limité les choses. Donc, à voir. VOD et musique, c'est quand même plus simple à mettre en place que le jeu vidéo. Ça dépend. Si Apple le fait, façon, on agrège vraiment les meilleurs jeux vidéo, on finance des gros studios, etc., on fait une production très... Il y a quelque chose de possible. En se concentrant sur le casual gamer. Peut-être pas chercher les hardcore gamers, mais en se concentrant sur le casual gamer, qui veut de la puissance quand même, hein, le casual gamer, c'est pas parce qu'on est casual qu'on veut jouer sur une config de merde. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent en interprétant le mode. Bon, mais je suis un peu dans les graviers, mais je trouve ça ferait une bonne tartine. On en reparlera, ça fera une bonne tartine. J'avais une deuxième news sur l'audio et Apple. C'est un autre brevet et Apple, en fait, sera en train de développer un brevet pour les gens idiots, pour les gens maladroits comme moi. Moi, j'ai un problème majeur, c'est que souvent, mon casque, je le mets d'un côté ou de l'autre. Je suis constamment oublié. Oula. Yep. J'ai eu... Pourquoi ? Ça n'a pas fait de coupure chez vous ? J'ai eu un petit problème... Mais non, ça a l'air d'aller là, il n'y a pas eu de coupure. 5 sur 5, nickel. Je suis constamment obligé de me rappeler et ça m'arrive d'autant plus avec les casques sans fil. Parce qu'avec un fil, je peux relativement me rappeler que le fil, il est à gauche sur ce casque-là. Donc, il faut que je le mette dans le bon sens. Non, il n'y a pas eu de coupure, donc tant mieux. Et effectivement, Apple aurait déposé un brevet selon quoi vous pourriez mettre votre casque dans n'importe quel sens. Le casque détecterait le sens, justement, et inverserait la stéréo. Donc, plus de problème d'inversion de stéréo. J'avoue qu'en termes d'ergonomie, ça serait pas con du tout. Ça serait absolument pas con du tout de faire ça. Je sais que, bon, les AirPods, on se trompe pas, parce que les AirPods, il n'y a qu'un sens où on peut les mettre. Enfin, moi, je me trompe pas personnellement avec les AirPods, parce qu'en plus, il y a le sens de l'ouverture des AirPods et de les ranger dans la boîte qui fait qu'on les sort dans le bon ordre. J'avais beaucoup plus le problème avec les anciens écouteurs d'Apple filaires, les ronds, là, qu'on avait autrefois. Cela, il fallait que je regarde le left, le right pour pas me tromper, quoi. Donc, ça pourrait être quand même vachement intéressant de développer effectivement une technologie comme ça. Ce qui est d'autant plus intéressant dans ce brevet, c'est que Apple aurait fait des petits spoilers en déposant ce brevet. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils auraient dit au milieu d'une liste d'appareils avec lequel fonctionnerait ce casque qu'il pourrait très bien fonctionner avec des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, des box, mais aussi avec des lunettes connectées, avec un pendentif ou même avec un chapeau. Alors, de là à dire qu'Apple va sortir un chapeau connecté, il n'y a qu'un pas. À quand le bonnet connecté, hein ? Mais bon, c'est rigolo qu'ils aient fait chuter effectivement dans un brevet... en tout cas évoqué. Bon, après, on sait que les brevets, c'est pas parce qu'un brevet existe que le produit va exister. Mais Gogo Gadget au chapeau, exactement. Je rêve, moi, du chapeau qui s'ouvre et hop, t'as un écran qui se déplie, t'as une antenne qui monte. Enfin, l'inspecteur Gadget, quoi. Le high cap. Avec clim intégré pour l'utilisation en été. Non, mais tu pourrais avoir des capteurs de sueur, par exemple, des capteurs de température qui te réchaufferaient le crâne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un bonnet connecté ? Bah, on peut planquer une grosse batterie sous un bonnet. Tu as ta grosse batterie qui chauffe là au-dessus de ta tête. Ça te réchauffe l'ensemble du corps. Tu alimentes tous tes devices comme ça. Bon, ça te grille le cerveau. Mais oh, tout de suite, des détails. Le bonnet connecté, ça existe. Oui, il y a probablement des Chinois qui ont dû sortir un truc. Le slip connecté existe, donc la chaussette connectée existe. Donc à partir de là, on peut tout connecter, hein, mon bon monsieur. Tu penses un jour, ils offriront des AirPods quand on achètera un iPhone ? Non, Lucas, justement, comme je l'ai dit dans ma vidéo de test des AirPods, Apple a eu un coup de génie en n'offrant pas les AirPods avec les iPhones. Alors, c'est chiant pour nous, les consommateurs, mais en même temps, ils ont gardé une valeur aux AirPods. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, ils mettront des AirPods première génération avec les iPhones, quand la gamme AirPods offrira du haut de gamme qu'on aura. Mais quand même, en n'offrant pas les AirPods avec les iPhones, ils ont gardé un élément de désir autour des AirPods qui en font la grande réussite commerciale que c'est aujourd'hui. Et s'y mettre des batteries sous les roubignoles. Pas facile pour marcher, hein. Puis là, pour le coup, je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir des ondes électromagnétiques dans ce coin-là, quoi. En même temps, on met son téléphone à côté de ses couilles, hein, toute la journée, hein. Donc, bon. Bref, pardon de cette vulgarité. Et c'était le dernier article, en tout cas, des news de ce matin. Ah non, 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 j'ai complètement oublié. Un article qui m'a beaucoup fait rire. J'ai quelque chose à vous montrer et qui m'a beaucoup fait rire. C'est un artiste qui s'est emparé des selfies de célébrités et qui a remplacé les smartphones qu'elles tiennent en main par des livres de philosophie. Vous vous dites, c'est débile, mais en fait, vous allez voir, c'est complètement génial. Donc, nous avons Gigi et Bella Hadid, Kaya Gerber, je ne les connais pas, hein, ces jeunes dames, Dua Lipa, Kim Kardashian, ça je connais, entre Kylie et Kendall Jenner, qui sont passés sous le curseur de Thomas Lélu, artiste français, qui est connu pour ses photomontages affriolants et ses collages pop. Sur son compte Instagram, l'artiste plasticien a débuté une série qu'il a nommé Philo Selfie. Et je vous montre ce que ça donne, parce que c'est quand même assez hilarant. Je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent en audio. Nous avons donc effectivement des influenceuses, des stars, qui, au lieu de tenir leur selfie en main, sont en train de se regarder en miroir dans des livres de philosophie. Par exemple, Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Nous avons ici... Alors, je connais pas tout leur nom par cœur, hein, ces nanas-là. Je vois à peu près qui c'est, mais bref. Et elle tient Le réel et son double, livre de philosophie. Là, elles tiennent Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Là, Cioran sur les cimes du désespoir. On a Frédéric Nietzsche, Beyond Good and Evil, je pense. Ça doit être ça. Ça m'a beaucoup fait rire, ce fameux selfie qui avait été fait pendant l'émission d'Hélène où il y a plein de stars dessus et le smartphone, c'est Olu Cacaboudin qui tient dans la main. Je trouve ça absolument génial comme idée. Oui, c'est mal fait, mais on s'en fout. Merci Mathéo pour ton super chat, on te pardonne ton retard du coup. Là, Anna Arendt, La crise de la culture. Et le dernier est absolument génial, de tenir dans la main Sartre, la transcendance de la transcendance de l'ego. Non, la transcendance de l'ego, hein, c'est pas l'ego, les briques, hein, pour faire, c'est pas, voilà, c'est l'ego, hein, je m'aime, hein, moi, voilà, l'ego. La transcendance de l'ego, qui est quand même le narcissisme ultime, qui est le selfie à outrance. Moi, je trouve ça, moi, ça m'a fait beaucoup rire, en fait. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. On s'en fout que ça soit mal fait. Franchement, alors là, j'en ai rien à foutre que ça soit mal fait. L'idée est assez géniale. Les titres ne sont pas choisis au hasard. Tout à fait. Tout à fait. C'est toutes des filles qu'une nana a séduit, que les hommes riches, très riches, célèbres, l'amour américaine, en somme. Je sais pas, mais en tout cas, c'est toutes ces nanas un petit peu célèbres, influenceuses. Je connais hein, Kylie, Kendall Jenner et Kim Kardashian. Le reste, j'avoue que j'ai entendu parler, mais je vois pas bien qui c'est. Hein. Ça m'a beaucoup fait rire, moi, personnellement, donc je voulais le partager avec vous. Et c'est donc la dernière news de la matinée. Mais avant qu'on passe à la tartine, où on va parler d'HBO et d'Apple TV+, on va bien sûr parler de notre partenaire Shadow et du Shadow PC. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur un test extrêmement ambitieux en ce moment-là. Je passe mes nuits à enregistrer des tests de latence entre le Shadow, entre le Stadia, entre un PC local. Je fais carrément des tests de labo. C'est assez intéressant à faire, mais c'est assez chronophage. Bref, je vous en reparlerai bientôt dans une nouvelle vidéo. Tout ça pour dire, Shadow et leur Shadow PC, c'est le sponsor de notre émission. On les en remercie. Shadow PC, c'est un PC de gamer à puissance déportée. Donc, ça s'inscrit dans cette tendance du cloud gaming hein, qu'on connaît bien. Vous pouvez effectivement aujourd'hui acquérir, vous abonner à un Shadow PC. Ça va de 13€ par mois à jusqu'à 40€ par mois avec engagement, avec 3 niveaux de puissance possibles sur Shadow PC. Si vous utilisez le code NOWTECH, vous aurez une réduction sur chacune de ces offres. Actuellement, c'est en précommande, hein, puisque les nouveaux Shadow PC arrivent en février, ces 3 nouvelles offres. Mais Moi, ce que je conseille à tout le monde, parce que le Shadow PC, ça marche pas chez tout le monde, hein, on va être honnête là-dessus. Ça dépend complètement de la qualité de votre connexion. Et la qualité de votre connexion, c'est pas qu'une question de vitesse de connexion. Il vaut mieux tester avant de s'engager complètement dans le Shadow PC. Et quoi de mieux pour tester que de gagner un mois gratuit de Shadow PC? Eh bien, c'est possible. Et ce matin, d'ailleurs, nous avons le gagnant de la semaine. Le gagnant de la semaine que je vais afficher. Hop. Et c'est donc Waller and Grevet qui nous dit « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug Nowtech pour jouer à Red Dead Redemption 2, je suppose. Eh bien, écoute, tes vœux vont être exaucés puisque tu viens de gagner un mois gratuit de ShadowPC. Je t'ai envoyé le code d'accès à utiliser d'ailleurs dans la partie cadeau. Bon, de toute façon, je t'ai peut-être pas envoyé le bon lien, d'ailleurs, Waller and Grevet. Je t'enverrai le bon lien en message. Parce qu'effectivement, ils ont changé un petit peu leur site chez Shadow. Donc, bravo à toi. Si vous aussi, vous voulez gagner un mois de Shadow PC, eh ben, vous faites un tweet exactement comme ça. En mettant bien le hashtag Shadow PC, le hashtag le mug Nowtech, et en nous disant pourquoi vous voulez gagner un mois de Shadow PC, pour tester quel jeu, pour tester quelle application PC. Et comme ça, vous aurez une chance de gagner. C'est très important de mettre ces hashtags, parce que c'est grâce à ces hashtags que je fais le tirage au sort. Voilà, voilà. Je repose moi la question, Nicolas, à la fin de l'émission pendant les cornfac sur le montage avec un Shadow PC, puisque pour l'instant, nous allons passer à la suite. Nous allons parler de plateformes de SVOD, de la guerre du streaming aujourd'hui, et notamment du gros coup qu'a fait Apple ce matin. Et je vais vous demander un petit peu ce que vous comptez faire en 2020 au niveau du streaming. Et c'est tout de suite dans la tartine. Et oui, dans la tartine, ce matin, on va parler de SVOD, on va parler de streaming et du gros coup d'Apple TV. Aujourd'hui, ce matin, on apprend effectivement que l'ancien patron de HBO, hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer, l'ancien patron qui a été quand même chief executive pendant 27 ans chez HBO, vient de signer avec Apple TV+, pour produire leurs émissions à travers une nouvelle boîte de production. Donc, c'est pas HBO qui signe avec TV+, c'est l'ancien patron de HBO qui monte une nouvelle boîte de prod et qui va s'occuper de la prod de TV+. C'est quand même un coup énorme pour TV+. Cet homme qui s'appelle d'ailleurs Richard Plepler, et quand même, entre autres, hein, celui qui a lancé True Blood, Game of Thrones, VIP, etc. Toutes des grandes séries de HBO qui ont quand même fait la renommée de HBO. Donc, c'est quand même un très, très bon signe pour Apple TV. Et quand je disais tout à l'heure que Apple, quand ils font quelque chose, généralement, ils y mettent les moyens, je pense pas que le mec, il s'est vendu pour une poignée de carambars. Ça a dû coûter relativement bonbon à Apple TV. Aujourd'hui, l'Apple TV+, elle est quand même carrément intéressante si vous êtes un acheteur Apple, puisqu'on a un accès, pas gratuit, mais on a un accès offert pour l'achat d'un iPhone, d'un Mac, etc., ou d'un iPad, Apple TV+. Je crois pas qu'on en bénéficie si on achète une Apple Watch ou AirPods. Il faudrait que je vérifie si quelqu'un a l'info dans la chatroom. Je sais pas. Sinon, si vous avez pas un objet Apple, c'est une offre qui coûte $5 par mois. Je sais plus combien c'est en euros, mais ça doit être dans ces eaux-là. Les AirPods, non, ne permettent pas de bénéficier de ça. Hein. Pas pour les AirPods. L'Apple Watch, ça m'étonnerait aussi. L'Apple TV 4K, oui, ça marche. Bien sûr, oui, évidemment, ouais. Non, c'est que iMac, iPad, iPhone ou Apple TV. D'accord. OK. Merci de me confirmer ça. Donc, Tout ça pour dire, voilà, la guerre du streaming, hein, on sait que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent au niveau du streaming des films et des séries en 2020. Et je voulais vous demander un petit peu quelles sont vos intentions, vous, pour 2020. Qui va arrêter Netflix pour se mettre à Disney Plus pour regarder le Mandalorian? Qui va cumuler les offres? Qui va se mettre à Canal Plus pour bénéficier à la fois de Disney Plus et à la fois de Netflix? Quelles sont vos intentions? Quelles vont être vos stratégies en 2020 par rapport au streaming? Merci mamie Elisabeth pour ton super chat diamant. Je ne sais pas qui tu es, mamie Elisabeth. Mais tu as l'air fort sympathique. Moi, j'arrête Netflix pour ADN. C'est quoi ADN? Pour Disney? Non. Netflix est indéboulonnable. Les autres ont très peu d'exclus. J'ai pas de service. Ça me suffit, d'accord. J'ai pas d'autre choix que de cumuler, d'accord. Moi, j'utilise... Bon, on va pas dire le service que tu utilises parce qu'on fait pas la promotion. On ne condamne pas forcément, mais on va pas faire la promotion du piratage non plus. Netflix plus Torrent, Disney plus Netflix, aucun abonnement, je mets mon chapeau de pirate. Pour moi, c'est le partage de connexion avec des amis. L'un paye Netflix, d'autres payent Disney. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça. Tic-Tac-Oumi, tu vas résilier Netflix pour Disney+, et Wakanim. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a eu un phénomène de Mandalorian autour de Disney+, mais le coup de bâton, le revers de la médaille, c'est que maintenant que The Mandalorian est fini, il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de Disney+, pour repartir sur Netflix. Donc, il va falloir que Disney ajoute quand même pas mal d'autres séries sur son offre pour que les gens se fidélisent, quoi. Merci beaucoup Tophone pour ton super chat également. Waouh, ça pique les yeux le matin. Quoi, tu veux dire... Oula, j'ai une grosse pixelisation de la vidéo. Je ne sais pas si ça le fait chez vous. Un petit problème de débit, c'est peut-être chez certains. Chez moi, là, en retour, j'ai des gros pixels. On dirait que je joue à Minecraft, là. Non, 5 sur 5. Bon, bah écoutez, c'est bon. Pas de télé, c'est quoi Netflix? Nigo. T'es un petit peu nigo quand même de ne pas savoir ce que c'est que Netflix. Netflix et Amazon, reste à voir pour Disney. Je reste Netflix et Prime. Finalement, plus de nouveautés chez Apple TV+. Versus Disney+, eh ouais, ils se défendent bien là, Apple TV+, hein. Amazon Prime, OCS par Orange TV et Netflix, d'accord. J'ai Netflix, Amazon, Apple TV offert pendant un an. Du coup, pour l'instant, ça n'a pas trop me presser de voir Disney arriver, d'accord. J'arrive pas à lire tout le monde, hein, donc je sélectionne des commentaires. OCS et Disney, je sais pas quoi prendre. J'ai un Netflix partagé. Le problème, c'est que ça commence à devenir un peu bordélique quand... Enfin, il y a beaucoup d'apps à ouvrir maintenant. Alors, moi, je suis un gros... Là, je vais me faire démonter dans les commentaires. Je suis un gros bourgeois. J'ai pas la totale, mais pas loin. En ce moment, avec Marion... Bon, après, on s'y met à deux, ça nous permet. Mais on a Netflix, on a Amazon Prime. On a pris OCS. On a Apple TV+. Et je pense que je prendrai Disney+, quand ça arrivera, pour me re-regarder The Mandalorian. Bon, je vous l'avoue, j'ai déjà regardé The Mandalorian, mais j'ai envie de me le revoir déjà tout de suite, j'ai envie que Mars, ça soit là maintenant tout de suite. Donc ouais, ça fait un sacré budget, mais j'avoue que c'est pas mal, quoi. J'attends après avec impatience des offres qui regrouperont un petit peu tout ça. Ouais, on en a beaucoup. Oh, Marion est là ce matin. Coucou Marion. Oui, on en a beaucoup quand même. Marion, elle est là. Ouais. Peut-être un peu trop, ouais. Mais moi, j'aime bien. Mais ouais, ça coûte cher. C'est sûr. À part The Mandalorian. C'est un peu le problème de Disney+, moi, à part The Mandalorian, pour l'instant, il n'y a rien de super excitant. Après, The Mandalorian, c'est pour moi. Enfin. Contrairement à Guillaume et Marion, qui aime bien, mais sans plus. Guillaume n'a pas trop aimé le Mandalorian. En fait, je suis archi fan de Mandalorian. J'ai adoré cette série, et plus j'y pense, là, j'ai déjà envie de la re-regarder. Et en fait, elle m'a vraiment fait kiffer. La musique, surtout les derniers épisodes, j'ai vraiment aimé, et ça renoue pour moi avec un Star Wars que j'avais oublié. Presque ça renoue avec mes vieilles figurines Star Wars. Il y a quelque chose de carrément épique et de simple dans cette série. Une simplicité qui manque dans les films Star Wars. Moi, je trouve ça... Après, je sais que tout le monde n'a pas aimé hein, The Mandalorian. Moi, j'ai adoré cette série. La photographie est dingue dans The Mandalorian. Alors là, moi, je regarde beaucoup de making-of et beaucoup d'interviews. En fait, ils ont utilisé des techniques très, très innovantes pour tourner The Mandalorian. Par exemple, ils ont utilisé très peu de green screen, mais par contre, ils tournent dans des environnements avec des grands écrans qui vont projeter des décors en réalité virtuelle, qui vont bouger en même temps que les acteurs et qui permettent de refléter sur les acteurs les vraies luminosités de décors en 3D. Donc, c'est pas comme dans certains films où les acteurs sont baignés dans des fonds verts et ils savent pas trop où regarder. Là, ils sont baignés dans des décors virtuels, mais réels. Et Herzog, qui joue dans la partie, en parle très bien, et avec toute la truculence qu'on lui connaît, de ce retour du vrai cinéma réel qu'il a retrouvé dans The Mandalorian. Baby Yoda est en image de synthèse. C'est une marionnette. C'est une marionnette, Baby Yoda. Oui, The Mandalorian, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série sur Star Wars. C'est la première série Star Wars qui ne parle absolument pas de l'histoire de Star Wars. C'est juste dans l'univers de Star Wars. Le scénario un peu léger, mais justement... moi, c'est ce que j'aime dans The Mandalorian, c'est que les épisodes sont simples. C'est du vrai feuilleton à l'ancienne. T'es pas forcément obligé de regarder tous les épisodes pour comprendre. Ça a un côté très jeu vidéo hein, dans le scénario. C'est chaque épisode est une quête. Le héros arrive quelque part, il a un objectif à accomplir. Il rencontre des PNJ, il y a un combat et puis il a terminé sa quête. C'est assez simpliste, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est Nicolas Cage qui double Yoda. Nicolas Cage double tout, il faut le savoir. Rien, même pas une histoire parallèle à Star Wars. Ben, en fait, c'est bizarre. Hein. On pourrait analyser The Mandalorian, mais le fait même que ça ne parle pas du tout de Star Wars et sans spoiler, ça parle par exemple des Jedi comme de magiciens distants, très distants. Et ben, ça renoue avec un certain Star Wars, notamment les premiers Star Wars. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux, dans le sens où une histoire parallèle au Seigneur des Anneaux, il y en a plein dans Tolkien, donne la profondeur de cet univers qui existe en dehors du Seigneur des Anneaux. Et une série comme The Mandalorian donne beaucoup de corps à l'univers de Star Wars en dehors de l'histoire des Skywalker. C'est un univers, je veux dire, pendant que les Skywalker font piou-piou et avec des sabres laser, il s'est passé plein d'autres choses dans une galaxie très très lointaine il y a très très longtemps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne de la profondeur. Arrêtez les spoilers dans la chatroom, il y a des gens qui n'ont pas vu la série, donc ne dites rien, soyez cool, soyez civilisés. Pas de spoiler, s'il vous plaît. Vraiment trop court les épisodes. Bah, ça prouve qu'ils sont bien. Mais bon, je vois que ça plaît pas à tout le monde. Star Wars 9, j'ai pas aimé du tout. Hein. Je le redis, j'ai pas aimé du tout. Voilà, en tout cas, pour la petite tartine de ce matin, c'était intéressant de voir. J'ai un peu pris un sujet à Marion, elle va m'en vouloir en vous parlant de streaming, mais c'est intéressant de voir quand même le gros coup que vient de faire Apple en se payant finalement l'ancien patron de HBO. La guerre est là, elle est à couteau tranché, il n'y aura pas de prisonniers. J'allais dire un seul peut survivre, non. Il n'y aura certainement pas de la place pour tous les services de streaming, il y aura des morts. Ça va être le feuilleton à suivre en 2020. Et je l'ai vu dans la chatroom, vous fourbissez vos armes. Certains vont s'endetter et vendre leur grand-mère pour pouvoir regarder tous les services de streaming. D'autres sont en train de rechausser, rechausser un chapeau, ça ne se fait pas de pirate, mais en train de se revêtir de leur vieux chapeau, de dépoussiérer leur vieux château de pirate, chapeau de pirate, pour s'y remettre. Bref, ça va être intéressant de voir effectivement comment nous on va réagir à cette guerre de streaming. Non, je t'en veux pas. Par contre, c'est à couteau tiré. J'ai dit quoi? À couteau plié? J'ai dû faire une boulette dans mon proverbe. C'est qui Marion? Lucas, tu sors. Merci. Moi, je vais télécharger. Marre de donner mon fric. J'aurais marre de donner mon fric. Moi, je regarde, enfin, moi qui ai connu une époque où tout ça n'existait pas et on dépensait beaucoup d'argent en j'ai connu hein, les cassettes VHS, j'ai connu ensuite les DVD, les Blu-ray, et les sommes qu'on dépensait à l'époque, je peux vous dire que c'était plus cher que tous les services de streaming cumulés. Mais bon. Apple a de la thune, Netflix a de la thune, Amazon a de la thune. Pas facile d'en enlever. Si le prix standard est de 6 euros, Netflix compris, on pourra cumuler. Moi, je termine là-dessus. Je pense que il y a un vrai marché à partir de 2020. D'abord pour des apps qui vont nous permettre de nous y retrouver dans toutes ces séries. Parce que c'est quand même un vrai bordel. Et ce qu'est en train de faire Canal+ en France... Je pense que ça va se faire de plus en plus. Des offres cumulées, des bouquets où t'auras tout. Netflix, Amazon Prime et tout. Ils vont négocier un prix de gros avec ces mecs-là. Et hop, t'iras sur ton bouquet, puis tu choisiras ce que tu veux regarder. Ça aura un certain prix. Je pense que les opérateurs vont s'y mettre aussi. On va avoir une période un peu bordélique où on va avoir plein d'offres qui sont séparées. Je pense pas que ça restera comme ça très très longtemps. Et le sur le Shadow, on peut jouer à Fortnite. Tu vas me poser cette question bientôt, m'a dit, puisque c'est le moment de l'émission où vous allez pouvoir me poser toutes ces questions-là directement. C'est les fameux cornfac, et c'est tout de suite. Et oui, c'est le moment des camps de fac, le moment tant attendu. Hein. Pas de lait sans céréales, pas de céréales sans lait. Les camps de fac, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez ce matin. Il n'y a pas de questions platinium, de questions prioritaires. Donc, on peut attaquer tout de suite les questions et je vais répondre justement à la dernière que j'ai vue. Est-ce qu'on peut jouer à Fortnite sur Shadow PC ? Tout à fait, Shadow PC est un vrai PC. Tu lances tous les jeux que tu peux lancer sur un PC, tu peux les lancer sur un Shadow PC. À part, je sais même pas s'il y a encore des exceptions. Au tout début du Shadow, il y avait quelques jeux qui ne marchaient pas pour des raisons de reconnaissance de la souris à travers Shadow. Je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques. Il y a eu une période noire où Overwatch marchait mal sur le Shadow PC, mais alors c'est bien révolu hein, cette époque-là. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de jeux incompatibles. Et en fait, quand ils étaient incompatibles, c'était plus pour des systèmes d'anti-cheat qui avaient du mal à reconnaître le Shadow PC comme un vrai PC, puisque quand même, c'est une VM et c'est pas un vrai PC physique. Donc, c'était pas une incompatibilité software. C'était juste les systèmes anti-triche qui réagissaient mal au Shadow PC. En direct du Japon, il est 16h53 ici. Tu as mangé quoi de bon pour le nouvel an? Qu'est-ce qu'on a mangé? je vais encore m'attirer les foudres des défenseurs et ils ont raison, mais on a mangé du foie gras. On a mangé du saumon, là aussi je vais m'attirer les foudres de pas mal de monde. On a mangé du fromage et on a mangé des gâteaux. Et voilà. Ça démarre quand les nouvelles offres Shadow? En février. Dis-moi quand tu feras une vidéo sur une sortie éventuelle d'un iPhone SE2. Je ferai pas de vidéo tant qu'il sera pas sorti. Faire des vidéos sur des rumeurs, ça me... Je sais que beaucoup de YouTubeurs le font. Je pense pas le faire. Faut jamais dire jamais, mais je pense pas le faire. En moyenne, combien de vues faites-vous sur les podcasts du mug? Alors, le mug spécifiquement, on fait entre 2 et 3 000 vues par jour. Enfin, par mug. En comptant les replays sur YouTube, j'ai pas les chiffres du podcast en audio. Il faudrait que je regarde ceux qui nous écoutent en replay audio. Je prends un peu vos questions au hasard parce que ça défile vite. Le new iPad Pro, c'est pour quand à ton avis? Je pense que ça sera peut-être annoncé au printemps. Je pense, on verra. On t'a offert un nouveau mug à Noël? Non, j'ai pas une mug de Noël. J'attends vos nouveaux mugs d'ailleurs. Hein, il va falloir renouveler le stock là des mugs. Et oui, la plupart des mugs qui se trouvent ici sont des cadeaux que vous nous avez faits, que vous nous avez envoyés. Là, la petite collecte Star Wars. Alors, on nous en a fait au dernier Naotech Drink. Hélice nous a offert, comme chaque année, une super collection de différents mugs. Je viens d'avoir un Google Mini offert avec mon abonnement YouTube. Honnêtement, aujourd'hui, Google Mini, si tu le payes, t'es un peu con. Je trouve qu'il y a tellement de manières d'avoir un Google Mini gratos, enfin gratos, en cadeau promotionnel. Comment envoyer? Bah écoute, envoie un mail à nowtechtv@gmail.com et je t'enverrai une adresse d'envoi. À quand la chaîne non sponsorisée par Shadow? Bah écoute, on a besoin des sponsors pour vivre, donc si on n'a plus de sponsors Shadow, aujourd'hui je pourrais pas faire le mug et payer Marion et Guillaume si on n'avait pas Shadow comme sponsor. Donc il faut voir ça aussi. Sans sponsor, je suis pas sûr qu'on continuerait le mug. On va être clair là-dessus. Y a-t-il des nouvelles sur la PS5? Non, pas de news aujourd'hui en tout cas. Non, pas de mug Kamasutra. Je saurais pas où mettre la langue, donc je préfère pas. T'aimes quoi comme abonnement VOD? Écoute, Apple TV est pas si mal que ça, à part si qui est dégueulasse. Marion qui a pas trop aimé, et j'ai commencé à m'y mettre, elle me dit qu'elle est bien maintenant cette série, merde, comment ça s'appelle? The Morning Show, là. Donc je l'ai commencé. J'adore For All Mankind. C'est pas mal hein, ce qu'ils font Apple TV+. C'est le début, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas mal. Ça vaut le coup d'acheter une PS4 ou d'attendre? J'ai envie de dire peut-être attendre maintenant, ouais. Tu penses prendre Shadow Infinite? Je pense pas, j'ai pris Shadow Infinite. Et pour vous spoiler un peu, je teste en bêta un Shadow Infinite. C'est assez génial d'avoir cette puissance-là. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. À quand une nouvelle Apple TV 4K? Alors ça, je suis pas dans les secrets de chez Apple. Bonjour, j'apprécie beaucoup tes vidéos et la pertinence des questions que tu ouvres sur les produits testés. Ben, merci beaucoup à toi, Steven. Merci beaucoup à toi de ton commentaire. Est-ce que je vais faire un spécial CES? Déjà, j'y vais pas. Je pouvais y aller, mais pas dans des conditions qui me satisfont. C'est con, hein, mais aujourd'hui, je vais pas faire le anti-avion parce que je trouve ça débile aussi. Les gens, il faut plus prendre l'avion et tout. Mais j'aurais accepté de, on va dire, une dépense kérosène pour aller au CES si j'avais pu vous faire certains reportages en certaines conditions. C'est pas ce qu'on m'offrait comme condition, donc je préfère commenter le CES d'ici. Je ne sais pas si je ferai une vidéo spéciale CES. On en parlera dans le mug, bien évidemment. Mais voilà. T'en penses quoi du 1DX3? Attendons qu'il soit sorti, mais pour une fois, Canon, il aura tout mis dedans. Tout ce qu'il faut. Après, le produit est un peu gros. Mais bon, en même temps, quelque part, pour moi, son grand concurrent, ça sera le S1H. Il est gros aussi. Est-ce que tu conseillerais Shadow pour du gros montage vidéo? Non, le seul problème de Shadow pour le gros montage vidéo, il y a toute la puissance qu'il faut, mais il faut quand même envisager que tu vas devoir envoyer tes rushs sur le disque dur, les SSD de ton Shadow, pour pouvoir monter vite. Donc c'est un downtime par rapport à un ordinateur de montage local. Donc à moins d'avoir une grosse fibre industrielle symétrique où tu peux vraiment envoyer du lourd très très vite vers ton Shadow, je ne peux pas conseiller le Shadow PC pour du montage très lourd. Pour du montage où il faut de la puissance mais avec des vidéos légères, oui. Si tu veux monter des vidéos de 20 minutes avec des heures et des heures de rush, je ne conseille pas le Shadow PC. Que penses-tu de l'état de YouTube actuellement et que penses-tu de Twitch? Oh, j'ai beaucoup, beaucoup parlé du YouTube actuellement parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense que 2020, ça va être l'année du grand split avec les moins de 13 ans d'un côté, les plus de 13 ans de l'autre. Ça va changer énormément de choses sur YouTube. Donc, ça va être une année très intéressante pour YouTube. Voilà ce que je pense. J'ai trouvé très intéressante ta vidéo sur les Philips Hue. Merci pour tes vidéos et tes tests. Eh ben, merci à toi, LCVL221. Je monte sur quel logiciel de montage? Je monte sur Final Cut Pro, donc sur Mac, puisque Final Cut Pro n'existe que sur Mac. À quoi sert le Shadow Ghost? Alors, le Shadow Ghost est un confort d'accès à ton Shadow PC. Tu peux accéder à ton Shadow PC de n'importe où. D'un PC, d'un iPhone, d'un iPad, de ta télé, sur une Nvidia Shield, sur une Apple TV, sur un Mac, tu peux accéder à ton Shadow PC. Très simplement, l'appli, là où l'appli existe, tu peux accéder à ton Shadow PC. Le Shadow Ghost est un boîtier qui va te permettre aussi d'accéder à ton Shadow PC. Et surtout, et ça peut être l'avantage de la Shadow Ghost, d'avoir tes périphériques connectés en permanence. Donc ça va remplacer vraiment ton ordinateur physique d'avoir la Shadow Ghost. Ça va permettre 2-3 petits trucs intéressants aussi, la Shadow Ghost. Ça va te permettre de te connecter à ton réseau local, d'utiliser du Bluetooth, du Wi-Fi. Bref, ça va te simplifier ton Shadow PC. Mais c'est absolument pas obligatoire pour profiter du Shadow PC. Soyons bien clairs. Est-ce que pour les cartes graphiques externes via Thunderbolt 3, ça serait la solution d'Apple pour satisfaire les gamers? Il y a ça, j'y ai pensé effectivement, Davis, c'est que c'est vrai qu'il commence à y avoir un vrai marché de la carte graphique externe. Qui pourrait pas mal plaire aux gamers, ce qui pourrait aider pas mal Apple à faire effectivement une plateforme hardware pour gamers. Reste le problème du software, on verra comment ils peuvent se démener. T'as tenté de synchroniser les Philips Hue avec ta TV LG? Non, parce que j'ai pas de boîtier HDMI permettant la synchronisation. J'en ai parlé de ce boîtier. Peut-être que Philips Hue me l'enverra. Bon, le seul problème, c'est que ce boîtier ne transfère n'est pas du HDMI 2.1 et va pas donc bon, mais j'essaierai, mais il faut ce boîtier là pour pouvoir synchroniser ses Philips Hue avec. Samuel, la latence ne va pas poser de problème quand on joue en live? Alors on en parlera de la latence dans le test que je suis en train de faire. J'ai vraiment pris, j'ai vu à quel point Julien Chiez s'était fait démonter sur Stadia en disant « Ah, mais regardez, j'ai pas de latence. » Et on voyait de la latence. Donc, je vous spoil un peu une de mes prochaines vidéos. J'ai mesuré à 180 images secondes. J'y ai passé jusqu'à 1h du matin hier. Moi, en train de cliquer sur soit des manettes, soit des souris, soit en filaire, soit en Bluetooth, soit sur de l'ordinateur local, soit sur du Shadow, soit sur du Stadia. Je ferai exprès de ne pas mettre ou de pas calculer les latences en millisecondes, mais pour que vous fassiez une idée de la latence, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous risquez d'être surpris de la latence en images que vous avez sur un ordinateur local. Déjà, quand on clique sur une touche et qu'on enregistre à 100... Faites l'expérience chez vous. Si vous avez un smartphone qui permet d'enregistrer en 180 ou en 240 images secondes, filmez votre ordinateur, vous en train de cliquer, et le moment où la balle part, où votre personnage saute, enfin, où l'action est répercutée par votre ordinateur. Vous verrez que même sur un ordinateur local, c'est loin d'être instantané. Et beaucoup de gens parlent de la latence du cloud gaming comme d'un élément injouable. D'abord, tous les jeux ne sont pas sensibles à la latence. Et en plus, tous les joueurs ne sont pas des pro-gamers. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de latence sur le cloud gaming que sur un ordinateur physique local? Oui. Est-ce que c'est injouable? Non. Loin de là. Est-ce que ça dépend de la qualité de votre connexion? Oui. Est-ce qu'il y en a certains, leur peur du cloud gaming leur fait dire que la latence est injouable? Oui. Mais voilà, moi, personnellement, je joue assez peu à des jeux compétitifs, à part un petit peu Overwatch et deux, trois petits trucs. Donc, je vais vous dire, la latence sur Witcher 3, sur Red Dead Redemption, ou... Enfin, c'est une la... s'il n'y a pas une latence, genre, j'appuie, je me fais un café, il a tiré la balle quand je reviens. Hein. Ça se compte en millisecondes. Pas des jeux où ça me pose des gros problèmes, quoi. Que penses-tu de Julien Chiez? Écoute, je pense que c'est un mec qui fait son métier. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai un respect quand même pour Julien Chiez. C'est quand même, entre guillemets, un vieux de la vieille. Il a commencé à 16 ans, il était journaliste dans le jeu vidéo. On aime ou on n'aime pas son style. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas non plus. Enfin, je veux dire, tant mieux à la limite. Je préfère qu'il y ait des gens qui ne m'aiment pas. Parce que alors, les gens que tout le monde aime, généralement, c'est des gens assez plats, sans aspérité. Je regarde peu ce qu'il fait. Mais je ne suis pas aussi critique et mauvais que certaines personnes sur Julien Chiez. Il a une... Alors, on peut lui reprocher d'être de mauvaise foi parfois, mais encore une fois, YouTube, les gens qui sont dans cette quête vaine de l'objectivité, il y a des mecs qui m'ont sorti. Et la déontologie du YouTuber, c'est quoi la déontologie du YouTuber? On est là pour partager de la passion. La passion, c'est de la mauvaise foi. Moi, quand vous croyez quand je vous parle des sacs Peak Design et que je vous dis que c'est les meilleurs sacs du monde, je suis hyper objectif. Non, je suis juste passionné. Voilà, c'est des débats de café, quoi. Vous êtes là à chercher de la rigueur journalistique qui existe même pas chez les journalistes. Bref. Mais bon, bref. Il est quand même 9h08 hein, là. J'ai traîné. J'ai fait exprès de ne pas regarder la chatroom pour pas que Samuel m'engueule en me disant « Jérôme, il est tard, il faut que t'arrêtes !» Je vais devoir arrêter, et hélas, les camps de fac. On se retrouvera dès lundi prochain hein, pour le mug sur la chaîne secondaire. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne secondaire Naotech Live si vous voulez un mug tous les matins. Et sinon, le vendredi, on se retrouve tous ici sur la chaîne principale. Semaine prochaine, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour de l'an. Hein, on devrait pouvoir faire une semaine complète. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Mangez de la salade, buvez de l'eau, reposez vos foies après tous ces excès des fêtes. C'est le docteur Kenborg qui vous le dit. Et sur ce, je rends l'antenne et je vous dis à lundi.